Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mise à mal. Les complexes. Alors, avant d'attaquer l'épisode, je voulais vous dire qu'on n'a pas pu parler de tous nos complexes, que ça aurait été un peu trop long et peut-être un peu chiant, mais j'en traiterai beaucoup dans ma newsletter qui est spécialement consacrée au malaise. Pour vous y inscrire, le lien est dans la description de l'épisode, mais vous pouvez aussi le retrouver sur ma page Instagram, Mise à mal podcast. Alors, on dirait que j'ai un mauvais accent du sud, mais c'est juste pour que vous sachiez où se trouvent les E. Mise à mal podcast sur Instagram, rejoignez-moi, on rigole bien. Bon épisode.
Alors oui, cette chaise fait des petits proutes. Est-ce que tu veux une autre chaise?
Peut-être, ouais. Parce que j'en fais moi-même en plus. Ça risque de faire doublon.
C'était pas la chaise.
Bonjour, bienvenue dans Mise à mal, je suis Flo. Aujourd'hui, on va parler des complexes. Et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal, il est tout simple, c'est que les mecs n'ont pas de complexes. Voilà, donc on va essayer d'éprouver ça et surtout on va essayer de creuser un peu plus ce qu'est qu'un complexe, parce qu'il n'y a pas que des complexes physiques, il y a aussi des complexes de capacité, des complexes psychologiques, des complexes en tout cas plus invisibles sur lesquels on va débattre. Et pour ça, je vais vous présenter mes deux invités.
On a le droit à notre petite présentation du coup?
Oui.
Non,
merci.
Incroyable.
Ah oui, je fais ça maintenant.
Trop bien.
C'est le mec dont les vidéos m'ont aidé à dépasser mes complexes à l'époque où je me construisais en tant que jeune adulte. Il a beaucoup parlé de vêtements et de mode et continue encore aujourd'hui, mais en élargissant le spectre et en abordant des thèmes de l'apparence et du regard des autres, il aime les habits comme il aime les brocolis. C'est Lucas de Luca Laccio.
Waouh, incroyable, merci.
Mais je t'en prie.
Cette présentation incroyable.
Et c'est tout est vrai.
Tout est vrai. Oui, j'adore les brocolis. J'en mange rarement, mais j'adore ça.
C'est vrai que t'en manges rarement.
Ouais.
Oh merde.
Ouais.
Lucas Gate.
Pizza. Enfin, tu vois mon corps. Ouais. Pizza. Pas brocoli.
Oui, mais des petites pizzas au brocoli.
Petite pizza au brocoli.
Ça, c'est pas possible.
Ananas brocoli, non?
C'est exact. Non, sacrilège.
Scandale.
Jamais le scandale. Scandale à l'antenne. Ouais, je t'avais déjà demandé ce qu'on s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre. Est-ce que t'as un autre truc que juste que t'es sympa? C'était ça ton truc?
Ouais. J'ai trois tétons.
C'est vrai?
Ouais, c'est vrai.
Oh, énorme.
Ouais. On dirait un grain de beauté. Mais c'est de la matière tétale. Je suis pas sûr.
Il y a pas les traverses.
Non, on dit pas ça.
On dit pas ça.
Il y a que moi qui le dis. J'ai trois tétons. Mais en fait, ça arrive très souvent.
Mais oui, j'ai connu une meuf qui en avait. Et en fait, ça ressemble tout à fait à un grain de beauté. Si elle me l'avait pas dit, j'aurais pas compris.
Oui, c'est une vraie mamelle.
C'est une mamelle. Est-ce que t'es sensible?
Non. Et puis, ça tire pas de lait non plus.
Ah, zut.
Malheureusement.
Parce que tes vrais tétons tirent du lait.
Tirent du lait.
Oui, évidemment. C'est une évidence. C'est ça que tu mets le matin, d'ailleurs.
Dans
pas du lait de soja.
Pas du lait de soja.
Du lait de Lucas.
Du lait de Lucas.
C'est l'homme qui me semble sans complexe tant il a un rapport sain avec lui-même. Et quand je dis sain, je parle pas de ses énormes pecs, si tu vois ce que je veux dire.
Oh.
Je vais te lécher la poitrine. Quand il perçoit quelque chose de négatif chez lui, il se demande comment faire pour le transformer en une force. Et c'est de cette capacité que j'apprends encore aujourd'hui. C'est Armen.
Ben, je suis honoré d'être présenté de cette manière-là. Bonjour à tous.
Pleure, s'il te plaît. Pleure d'émotion. Pleure de tellement t'es touché. Armen, est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on se rencontre? Si je te pose la question à chaque podcast, on va plus rien s'attendre de toi. Jamais.
Oui, mais je suis une personne complexe.
C'est vrai. Oh, jeu de mots.
Il y en a un qui a travaillé. J'en ai trouvé une encore, c'est que je peux être extrêmement colérique. Voilà, je pense que j'apparais comme quelqu'un de très très calme. Et je peux m'énerver très très fort, mais contre moi-même. Voilà, on en parlera d'ailleurs aujourd'hui.
Oh.
Voilà.
Ne spoilons pas.
Ne spoilons pas.
Mais en tout cas, merci beaucoup tous les deux d'être là. Je suis vraiment très très content de faire cet épisode avec vous. Et bien, attaquons. Et je vais commencer avec une question toute simple. C'est quoi votre plus grand complexe? Et il peut être de n'importe quelle nature. Et après, on déballera un peu tous les complexes. Mais prenez celui qui vous... qui vous obsède le plus, peut-être. Commençons par le Big Boss. Lucas, par exemple, t'as ton plus grand complexe?
Avant, j'en avais énormément. Et aujourd'hui, je me dis que c'est là, que ça vit avec moi. Et je vis avec, donc c'est cool. Je dis pas que j'ai plus forcément de complexe, parce qu'au quotidien, il y a des choses qui peuvent me gêner, soit dans mon corps ou psychologiquement, etc. Mais je vis beaucoup mieux. Par contre, le truc qui m'a fait le plus chier, on peut dire chier ici?
Interdit.
Ok, bite. Ouais, ouais. Ça va?
Non, surtout pas.
Non, pas bite. Mmh. Non, le truc qui m'a plus embêté, ça va ça aussi?
Je trouve que t'as un langage un peu outrageux.
Doucement, avec les mots.
Franchement, c'est, ouais, c'est vrai. En laissant tes grands chevaux là, t'es complètement bourré. Il est bourré.
J'ai un comportement cavalier en ce moment.
C'est cavalier. Venez, on parle comme au 18e siècle.
Oh, cavalier.
Morte couille.
Morte couille.
Je suis remonté beaucoup trop loin, c'est pas 18e.
D'ailleurs, le complexe a un lien avec tout ça. C'est avec que, exactement, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette et c'est pas une vanne.
Mais non.
Si.
C'est vrai?
Mais on le voit pas.
Eh ben non, on le voit pas. Parce
tu
que
l'avais
c'est un... je, en gros, depuis que je suis gamin, j'ai des tics. Et je pensais que c'était des tics nerveux. Donc ma mère pétait un câble, me disait, mais t'es stressé, il faut aller voir un médecin, etc. Donc tics nerveux, etc. Et récemment, en fait, je me suis dit, mais j'ai toujours des tics, c'est bizarre. Normalement, ça disparaît avec. À l'âge adulte, c'est censé disparaître. Et donc, j'ai fait quelques petites recherches et je suis suivi par le CHU de Bordeaux sur un programme. Et on m'a dit, mais en fait, vous êtes atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et je dis, ah bon? Ah, d'accord, ok. On va vous transférer dans un autre service. Et là, il y a un neuropsychologue qui va vous suivre et qui va vous dire, en gros, quoi faire pour soit diminuer vos tics, soit vivre avec, en gros, voilà. Mais depuis que je suis petit, en gros, j'ai des tics qui sont évolutifs. Et bah, c'était pas mal de railler à l'école et tout, on se moquait pas mal. Donc ça, c'était un complexe parce que pour moi, c'est une sorte de démon en moi et j'arrivais pas à le contrôler, quoi. Donc ça, c'était vraiment mon plus gros, enfin, le truc qui m'a suivi un peu toute ma vie, qui m'a posé le plus de problèmes. Mais aujourd'hui, je suis plutôt flex avec ça, quoi.
Mais c'est vrai qu'il faut le savoir, Gilles de la Tourette, on a tout de suite en tête pute, pute, pute.
Ouais, pute, 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 pute.
Voilà, ça on peut le dire par contre, parce qu'un podcast est extrêmement misogyne. Mm-hmm. Mais c'est pas que des insultes, ça va être des spasmes musculaires beaucoup en fait, beaucoup plus. C'est ouais. Ça du coup que toi tu connais principalement.
Alors pour définir le syndrome de Gilles de la Tourette, il faut au moins un tic moteur. Donc ça peut être un tic, je sais pas, clignement des yeux ou n'importe quoi. Et un tic vocal. Donc ça veut dire que si je fais ou si je lape un petit peu avec ma langue, c'est un tic vocal. Mmh. Et ce pendant au moins un an. Ces okay. tics-là, voilà. D'accord. Et là en fait, on détermine le syndrome de Gilles de la Tourette. Ça peut évoluer, les types, etc. Et les plus évidemment les plus, on va dire les cas les plus extrêmes, c'est des insultes, des choses qui sont un peu incontrôlables. Et ça c'est plutôt pendant l'adolescence. Et j'imagine comment ça va être compliqué pour un parent de voir son enfant comme ça. Ouais. Mais ouais, donc moi je suis à un stade vraiment, je suis à 10% du stade bit, quoi.
Et comment tu t'en es sorti d'une certaine manière? Et c'est quoi, il y a un traitement? Je sais pas du tout comment ça peut...
Alors, bonne question, il y a un traitement, ce qui s'appelle des neuroleptiques. C'est ce qu'on donne aussi aux schizophrènes, mais à une dose qui est minime. Moi je suis à 5 mg. Les schizophrènes en prennent 100 à peu près, voilà.
D'accord.
Donc ça permet de calmer en fait mes tics. Et au-delà de ça, j'ai des troubles de l'attention et aussi on va en parler, mais j'ai aussi des colères qui sont liées à ça. Je suis hyper colérique. Enfin, tu vois, il y a des, je suis hyper impulsif. Hein, il y a beaucoup de faces cachées derrière ça. Et donc ces médicaments permettent de calmer un petit peu tout ça en plus des tics. Voilà. Et au-delà de ça, il y a de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale.
Ah putain, oui, c'est ça.
Et du coup, ça m'aide à me canaliser, etc., à comprendre les mécanismes de mon corps, comment ça fonctionne, quand j'ai mes spasmes, etc., comment les réduire.
Et en gros, c'est juste aparté, mais donc la TCC, TTC? Non, ça c'est TVA, c'est la TVA, c'est ça.
TVA, ouais. Ouais. Alors, 20%, ça fait mon
compte. Dire, c'est pas 5 mg.
C'est Macron.
Alors Macron, démission. Oh. C'est TCC, hein, c'est ça.
Ouais.
C'est la psychologie, en gros, qui part de ton comportement pour expliquer pourquoi t'as tel comportement et essayer de détricoter peut-être quelque chose.
En fait, c'est juste pour soigner c'est vraiment soigner la mécanique. C'est-à-dire comprendre pourquoi tu fais ça. Et essayer avec du contrôle de ton corps à justement retenir des choses et reprendre de bonnes habitudes. Voilà. Il n'y a pas forcément de magie autour de ça, c'est vraiment de la médication et ces thérapies-là qui m'aident moi au quotidien à me contrôler. Mais au-delà de ça, en fait, là c'est très récent, au-delà de ça, j'accepte totalement d'avoir des tics au quotidien et de dire voilà, les gens le voient. Mes proches le voient, c'est ok, quoi. Tout le monde le voit.
Non, non, j'allais dire juste, moi, personnellement, j'avais jamais remarqué. Après, on n'a pas passé énormément de temps ensemble, mais voilà.
Je le cache plutôt bien
Bah ouais, ouais,
c'est dans les premières phases. Sauf quand je prends beaucoup d'alcool. Et là,
ouais, allez, vivons ce soir. Du coup, tu nous traites de pute. Mais c'est, enfin, moi, j'ai passé un week-end avec toi. On dirait qu'on est amants. Je, ce week-end qu'on a passé ensemble pour Courchevel.
Oui,
non,
ah,
mais, attends, tu m'as trompé.
Non, mais c'est pas. Fallait y aller graduellement. Je suis désolé.
Pas fait de surf, mais c'était bien.
On n'a pas fait de surf, c'était mieux. Et
surf and turf.
J'ai pas remarqué du tout non plus. Et en plus, ce qui est fou, c'est que tu t'exposes beaucoup, enfin, visuellement, en fait.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est courageux,
c'est une
je trouve,
qu'on fait souvent. Ouais.
Et bon, t'y as déjà pensé du coup que ça pouvait se voir ou en fait.
Bien sûr, et je me contrôle énormément et ça me demande énormément d'énergie de le faire, par exemple devant une caméra ou autre. Il y a Nozman aussi,
ah ouais
qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette et qui en parle dans une vidéo aussi. Et pareil, lui c'est il est atteint, je pense au même degré que moi et fait exactement la même chose pour se soigner. Mais moi je savais pas.
Ok, bah, comme quoi, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui ont essayé de dépasser des complexes en allant au-delà, donc ça peut être une bonne idée de s'exposer ou en tout cas d'aller vraiment en direction de sa peur et de se rendre compte que ça va, de sa peur, c'est pas spécialement peur, mais de son complexe et de le déconstruire activement. Merci. Et il y a deux ingrédients dans ce que tu as dit qui sont importants. Le premier, je pense, c'est d'accepter. Je pense vraiment que c'est hyper important d'accepter un complexe sans vouloir le changer tout de suite. On peut vouloir le changer après et des fois c'est souhaitable. Mais accepter là où on en est, c'est déjà d'une grande tendresse qui fait beaucoup de différence. Moi, il y a des choses, et on en parlera, que j'ai déconstruites simplement en acceptant d'arrêter de lutter. Et c'est vraiment énorme. Et la deuxième, c'est que s'il y a besoin d'aide, c'est OK d'aller chercher de l'aide à l'extérieur.
Bien
tu
sûr.
T'es suivi par le CHU de Bordeaux, ouais. Il a été médicamenté et suivi aussi dans une forme de thérapie qui fait ses preuves. Donc, c'est complètement OK de s'accompagner. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'identifie beaucoup nos comportements ou nos complexes avec notre identité. C'est faux, en fait. C'est juste un choix de le voir comme ça. Il y a peut-être des trucs qu'on n'est pas prêt à lâcher sur soi. Et donc, du coup, ça fait les accepter avec plus de tendresse. Mais il ne faut pas confondre, en fait, nos comportements et nos complexes avec qui on est.
Bien dit.
Bon, j'essaye d'être pertinent à deux grammes. Armen, toi, quel est ton plus grand complexe?
Bah, déjà, je voudrais dire, comme Lucas, que je pense être maintenant quelqu'un d'assez apaisé par rapport à mes complexes. J'ai pu en avoir beaucoup dans le passé, mais voilà, je pense que c'est plutôt une pensée positive de se dire qu'avec l'âge, ça a plutôt tendance à diminuer. Enfin, en tout cas, voilà, dans mon cas, ça s'est plutôt passé comme ça. Et si je devais choisir un complexe... Alors, j'ai pas d'énormes complexes genre, qui écrasent tous les autres, mais si je devais en choisir deux, j'ai un complexe d'infériorité dans mon travail, en fait. Dû au fait que j'ai changé de travail depuis 3-4 ans maintenant. J'ai toujours ce complexe de me dire bah j'ai pas fait vraiment des études pour, je me suis formé tout seul, donc du coup j'ai pas de légitimité. En fait, je suis passé d'un métier où j'en faisais depuis 6 ans, donc la musique, donc voilà, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours travaillé ma guitare plusieurs heures par jour. Enfin, j'avais une vraie légitimité dans ce que je faisais et je sais que je pouvais aller n'importe où, sortir ma guitare et commencer à jouer et me dire bon, on aime ou on aime pas, mais je sais que je mérite d'être là et que j'ai travaillé pour être ici, j'ai aucun doute là-dessus. Alors qu'en tant que vidéaste, donc mon nouveau métier, j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit « Bah ouais, mais t'as pas fait de formation, il y a des gens qui font ça depuis 20 ans, toi t'en fais depuis seulement 4 ans, donc ce que tu fais, bah ça risque d'être moins bien. » Et du coup, je dois me battre, donc c'est pas un combat extrêmement fort, mais c'est quand même une pensée que j'ai... Qui revient très souvent, que je vais louper quelque chose, voilà. Donc c'est pour ça que je stresse pas mal avant les tournages, parce que je me dis je vais pas avoir le niveau, il y a quelque chose que je vais manquer à cause de trop peu d'expérience, et donc c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, c'est pas un gros stress qui va me rendre malade ou quoi, mais c'est quelque chose que j'ai un petit peu. Et voilà, j'essaie de travailler dessus. Ça m'est déjà arrivé de passer par une forme de thérapie quand le stress prenait vraiment trop de place, justement, et qui m'empêchait de vivre. Ça fait un peu dramatique, mais ça m'est déjà arrivé de me faire des douleurs, de me coincer le dos par exemple, juste de stress. Et donc là, dans ce cas là je me suis dit bon bah là c'est pas possible quoi, je peux pas vivre comme ça. Donc du coup j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à résoudre ce problème, enfin à comprendre en fait d'où venait le problème et du coup de faire en sorte que ça se reproduise plus. Et là, pour l'instant, le stress que j'ai encore, je considère pas ça comme quelque chose de trop problématique pour que je travaille dessus spécifiquement, mais ça reste un complexe quand même, voilà, par rapport à... Il suffit que je sois avec quelqu'un d'autre qui fait de la vidéo depuis plus longtemps que moi, et je vais même pas aller regarder son travail, ou j'ai même pas besoin de me comparer avec lui pour me dire bah c'est forcément mieux ce qu'il fait, parce que ça fait plus longtemps qu'il le fait. Voilà. Et puis l'autre complexe, c'est celui de la colère. Je suis extrêmement... je trouve pas le terme... J'ai beaucoup d'attentes, je suis...
Exigeant. Ah,
exigeant, merci. Exigeant.
Je voulais qu'on joue encore un peu, mais tu l'as trouvé.
Exigu.
Je suis extrêmement exigeant envers moi-même, mais à un point où ça en devient maladif. C'est-à-dire que quand j'arrive pas à faire quelque chose, je peux me mettre dans des colères, mais vraiment noires. Et là, par exemple, en ce moment, donc, je viens d'acheter une maison avec ma femme, et il y a des petits travaux à faire dedans de rénovation, genre plancher, enduit, enfin des trucs quand même plus que juste remettre une couche de peinture. Et quand j'arrive pas à faire quelque chose, ça me met dans des états de colère, mais en fait, j'ai honte même d'être comme ça devant ma femme, parce que c'est des états dans lesquels elle a pas l'habitude de me voir, et c'est des états que j'assume pas du tout. J'ai honte d'être comme ça, et même sur le moment, je me dis, mais enfin... Je suis vraiment un gros con, quoi, de me mettre dans cet état comme ça. Elle est vachement réceptive à... Enfin, elle est très sensible, et donc, du coup, pour elle, c'est dur de me voir comme ça, mais sur le moment, c'est impossible de me... De contenir cette rage contre moi de ne pas réussir à faire un truc que je considère comme extrêmement simple, alors qu'il ne l'est en fait pas tant que ça. Ça peut être un truc d'électricité ou quelque chose qui demande un savoir-faire, mais ça me rend dingue de ne pas réussir à le faire.
Et c'est marrant, alors déjà le premier truc, c'est que ton complexe, il vient d'un comportement que tu n'aimes pas chez toi, la colère, mais qui vient d'une intention extrêmement positive, voire d'une qualité que moi je respecte beaucoup chez toi, donc je vais te juger pendant une demi-heure.
Sur un jugement, oui.
Mais un jugement positif, qui est que moi j'aime ton exigence, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime travailler avec toi. On a un projet ensemble en ce moment et ça me fait beaucoup de bien de bosser avec toi parce que t'es très exigeant. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, tu vois que ce qui est un complexe pour toi, moi, je vais le voir comme une qualité. Après, je pense que le complexe, il vient de la corrélation, enfin, l'entremêlement entre ton exigence et la colère qui en ressurgit quand tu n'as pas satisfaction. Je pense que c'est possible de décorréler les deux, de garder l'exigence sans arriver à la colère. Et généralement, il y a sur un complexe, en tout cas psychologique, il y a une bonne intention. Le complexe d'infériorité, c'est parce qu'on veut faire du mieux qu'on veut, qu'on peut. La colère, c'est parce qu'on veut se respecter ou enfin se faire respecter, etc. Il y a souvent une intention positive, mais qui est avec un comportement négatif. Et dès lors qu'on sépare les deux, qu'on n'est pas notre comportement, qu'on n'est pas nos réactions, et de remarquer l'intention positive qu'on a derrière, déjà, il y a un petit bout du chemin qui peut être fait. Et en quoi c'est un complexe? Parce que ça pourrait être quelque chose qui te gêne, mais t'en parles comme un complexe.
C'est par rapport aux autres, tu veux dire? Par rapport à ta femme, par exemple?
Ouais, bah notamment par rapport à ma femme. Et puis même, je juge, mais je me juge par la même occasion, donc je l'accepte. Mais je trouve que c'est un comportement de gros con, vraiment. Mmh. Genre le stéréotype du mec en train de faire des travaux, qui s'énerve, qui fait chier tout le monde juste parce que... Enfin, c'est pas grave, en fait. On peut, enfin, on n'est pas dans la, on a l'argent pour payer un électricien s'il faut. Je pourrais demander de l'aide à quelqu'un. Mais
un pote
en fait,
dans le besoin.
Un pote dans le besoin.
Ok. Besoin d'argent là.
Non mais j'ai. Non mais ouvre un Patreon. Mais et ouais, moi je vois ça comme une faiblesse de pas réussir à demander de l'aide aussi. Il y a aussi ce truc là, mais vraiment voilà, pour moi je me dis, si je me voyais de l'extérieur, je me dirais mais enfin ouais. C'est un con, quoi. Voilà. Et donc, du coup, j'ai honte sur le moment de me comporter comme ça.
Mmh. Et toi, t'es complexe? Ton plus gros complexe?
Moi, mon plus gros complexe... Enfin, ouais, j'ai pas réussi à le dire. Complexe.
Le complexe.
Je suis pompette.
Le complexe.
C'est mon nez. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'en parle, les gens me disent quoi ton nez? Enfin, parce qu'en vrai...
Moi, j'ai tout de suite
quoi mon nez.
De quoi tu voulais parler?
C'est que je l'ai vu comme le nez au milieu du visage. C'est un complexe hérité. Alors, j'ai un nez plus grand que la moyenne. Enfin, quoique, j'en sais rien quelle est la moyenne. Mais...
Bah, regarde à ta gauche, t'en vas déjà un plus grand, non?
C'est pas du tout podcastique comme blague. C'est vrai, j'ai regardé à droite. Armin est à ma gauche.
Il y avait personne.
C'est mon mur. Mais tu vois, ton nez, moi, j'ai jamais remarqué, par exemple.
Mais moi, j'avais pas remarqué le tien non plus.
Oh, arrête, on n'a pas remarqué nos nez.
Bien, pour minimiser ton complexe, hein.
Alors vraiment, je n'ai pas remarqué vos nez non plus, pour...
Putain,
vous dire.
C'est fou.
C'est pour, voilà.
Et en vrai, la réaction que vous avez, c'est celle que tout le monde a avec mon nez à chaque fois que je parle de mon complexe.
On n'est pas très originaux.
De quoi?
Bon, ah oui, tout le monde
dort mieux. Je suis très content. Je fais que parler mon nez pour qu'on me dise quoi ton nez. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un complexe hérité. C'est-à-dire que c'est un ami entre guillemets au lycée que je considérais comme un ami à l'époque, qui me charriait tout le temps sur mon nez, qui m'a charrié pendant 2 ans non-stop, vraiment non-stop. Mmh. C'est très long en fait, surtout quand tu te construis à cet âge-là.
Bah, c'est clair.
Donc entre mes 16 et mes 18 ans, ouais, en gros. Et qui arrêtait pas de me charrier sur mon nez, mais vraiment des trucs hardcore, tous les jours une petite remarque, genre. Des trucs cons, mais genre quand il pleut, dire ah bah tu vas pas avoir les pieds mouillés, des trucs, tu vois, et c'était pour faire marrer la galerie à chaque fois. Donc il faisait bien attention que ça soit dit devant des gens. Mmh. Et le pic du traumatisme, ça a été, donc moi j'ai fait du handball au lycée, tous les potes étaient venus voir le match, toutes les meufs aussi, ma copine qui était dans les gradins, ses potes et tout ça. Et à un moment, notre goal se blesse, notre gardien se blesse, donc on n'avait pas de remplaçant, et cet ami-là, qui hurle au milieu du stade parce que c'est rigolo, bah on a qu'à mettre Florent, il se mettra de profil et on prendra aucun but.
Oh, putain, c'est chaud.
Donc, pendant un match.
Pendant un match.
Un match qui est important, quoi.
Oui, et puis tu vois, genre, il y a tout le monde dans les gradins, ouais, et il y a une violence, vraiment, il y a une volonté d'humiliation,
c'est
quoi.
Violent, ouais.
Et en fait, ça, à répétition, mais parce que je le considère comme un ami, c'est encore plus pervers. Encore, je l'aurais considéré comme un con. Je me dis, bon, bah, il est con, je serais passé à autre chose et je l'aurais pas fréquenté au jour le jour. Mais parce que je lui faisais confiance, ça a vraiment, c'est une intronisation, quoi, du complexe. Et j'ai, encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, j'essaie de m'en défaire. C'est vraiment ce truc où des fois, je me vois sur les photos ou sur des vidéos. Donc, c'est assez fou comme quoi les complexes, là, moi, je peux le dater, c'est lui qui l'a construit. Mais en général, on se construit nous-mêmes nos propres complexes et c'est très peu vérifié par les autres, quoi.
Bah, c'est vrai que la parole a quand même a de l'importance. Et je pense que, enfin, c'est marrant, ça rappelle le livre très célèbre, Les 4 accords Toltec,
ouais.
où le premier principe, c'est la parole a une importance incroyable, elle peut détruire une personne. Je pense que sur les complexes, ça a beaucoup d'importance, surtout quand on est jeune, quand on est gosse, quand on nous dit quelque chose, surtout si ça vient de notre famille ou de nos potes. La parole a tellement d'importance parce qu'on, enfin, on considère ces personnes. Du coup, bah, on le prend comme quelque chose de, enfin, comme une vérité, quoi. Et ça peut nous détruire sur plusieurs années, même si c'est une phrase, en fait. Juste en une phrase, on peut en chier plusieurs années, quoi.
Sur la famille, des fois, on se prend des commentaires dans la gueule qui partent d'un bon sentiment. Tu vois, je sais que ma mère, moi, elle m'a dit des trucs pour que je sois plus séduisant ou que je sois plus à l'aise socialement, mais qui étaient tournés négativement. C'est « sois pas comme ça » ou « fais attention à ça ». Et en fait, ce qui est marrant, quand tu focalises sur un défaut, genre, je sais pas... Bon, moi, du coup, un autre complexe que j'ai eu pendant mon adolescence, c'est que ma mère m'avait dit... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit un jour, que j'ai fait un matin, elle m'avait dit « t'as mauvaise haleine, fais attention ». Mais tu vois, ça partait d'une bonne intention. Elle disait genre « t'as mauvaise haleine, va te brosser les dents ». Mais elle avait rajouté la phrase qu'il aurait pas dû. Elle a dit « ouais, moi, les garçons, quand j'étais à ton âge, les garçons qui avaient mauvaise haleine, j'avais pas envie de les embrasser ». Bon, bah, si tu en veux pas.
Elle a pas dit « fils de pute
». C'est ta mère qui te met à l'amende. Gros fils de pute.
Bah, maman.
Ton père est impuissant, tu m'entends?
Fils d'impuissant. Fini à la pisse.
Fini à la pisse. Non, mais. Et donc, ça partait d'un bon sentiment qu'elle voulait que j'aie une vie amoureuse épanouie, tu vois. Genre, et puis. Mais elle a fait là. Et ça m'a traumatisé pendant des années. J'avais trop peur d'avoir. De puer de la gueule, quoi. Et donc, du coup. Je me rappelle, je mangeais tout le temps des chewing-gums quand j'étais au collège et au lycée pour jamais avoir mauvaise haleine, mais une fois par demi-heure ou par heure, changer de chewing-gum, j'avais un budget de chewing-gum incroyable, quoi.
Comment pendant 6 ans ça t'a maintenu, quoi. Enfin,
Ah ouais, ça me faisait vraiment peur.
T'as lâché l'affaire maintenant, non?
J'ai.
Oh là là,
tu vois. Comment
c'est reparti pour 6 ans, les gars!
Oh non! Chewing-gum. Maintenant, je pue la tease.
ça va à tout le monde.
C'est accepté socialement, il n'y a pas de problème.
Avec des alcooliques, on a tous la même odeur.
Toi, t'as des souvenirs de.
Ouais, j'ai des souvenirs de ça. Je sais que ma mère me disait très souvent, elle me disait deux choses. La première, c'est que j'étais un peu gros. Parce que j'étais un peu grassouillet quand j'étais petit, et du coup. Je me disais, bah, si ma mère me le dit, c'est que c'est vrai. Du coup, bah, je suis comme ça. Donc, je vais maintenir ce truc. Donc, en fait, j'ai été grassouillet pendant très longtemps parce que j'imaginais que c'était la normalité, en fait.
Ah oui, d'accord, ok.
Et en fait, c'est vraiment rentré dans ce sens-là, tu vois. Et j'ai d'autres personnes dans ma famille qui me le disaient aussi. Et je me disais, bon, bah ouais, bah, ok, donc c'est comme ça, quoi. C'est un complexe, c'est horrible, c'est chiant, mais c'était comme ça. Et la deuxième chose que ma mère me disait, c'est j'ai une maman un peu poule et elle me disait que j'étais fragile. Et ça, en fait, ça me choquait parce que je me disais, mais pourquoi elle me dit ça? Elle me dit, pourquoi elle me dit que je suis fragile et tout? Je suis pas fragile, je suis avec mes potes, c'est tranquille. En fait, elle voulait juste me protéger en me disant « Non, toi, fais gaffe, ne bois pas trop si t'es ado et tout, ne bois pas trop. » parce que bon, t'as un organisme qui est fragile, parce que c'est vrai que je suis allergique à l'alcool, mais ça c'est pas c'est une broutille,
c'est un détail, ça.
Et je pense qu'elle a maintenu ces trucs là et en fait j'ai juste retenu le mot fragile. Et là dans ma tête ça se bousculait, je me dis mais pourquoi elle me dit ça, ok, ça se trouve je suis vraiment fragile et en plus c'est ma mère qui me le dit, quoi, c'est horrible. Donc j'ai dû déconstruire ce truc là un peu toute mon adolescence.
Et à quel âge justement t'as réussi à te défaire de ce truc là, tu vois à peu près
Très tard, je pense, vers les coups de 25 ans à peu près.
Ouais, c'est ça, ouais, je pense que ça met du temps. Hein, putain, c'est,
ouais. Ça met du temps, ouais.
C'est fou. Parce que j'avais un truc de poids, moi aussi, mais alors j'arrive pas à me rappeler si ça venait de l'extérieur aussi, ou si c'était que moi, mais vraiment depuis, depuis l'adolescence, donc 13-14 ans, je me suis toujours senti un peu gros, un peu chubby, quoi. Pas du tout obèse, mais en tout cas trop gras par rapport à ce que je voulais. Et ça m'a pris très longtemps avant de réussir à agir dessus, quoi. Donc c'est pour ça que je te demandais si c'était quelque chose que tu avais réussi à sortir tôt, quoi. C'est vrai que ça prend du temps, quoi.
Ouais, ça prend du temps. Ouais.
Lucas, t'as dit, je m'étais habitué en fait à ce qu'on me dise que j'étais gros, gras, grassouillet, parce qu'il y avait plusieurs membres de ma famille qui me disaient ça. Il faut savoir que dans la psychologie de l'enfant, enfin le premier cercle de socialisation, c'est ta famille. Et un enfant a vraiment besoin d'être reconnu. C'est dans la pyramide des besoins. On a un besoin d'appartenance qui est hyper fort pour garantir la sécurité et ça passe par la famille. Il faut savoir qu'un enfant va s'identifier à ce qu'on lui dit, même si c'est néfaste pour lui. Et donc typiquement, que quelqu'un te dise « t'es gros » et que t'as pas envie spécialement d'être affilié à ça, tu vas finir par le croire et même tu vas finir par répéter des schémas qui te maintiennent en gros ou peu importe, ça peut être n'importe quel autre complexe. Parce que c'est comme ça qu'on te reconnaît. C'est hyper dangereux pour un enfant de se dire « Ok, moi j'ai envie maintenant d'être mince, parce qu'il y a un danger potentiel à ce que plus personne de mon cercle me reconnaisse et donc je sois rejeté. » Il faut vraiment le savoir dans le développement de l'enfant, mais c'est valable aussi pour les adultes. Et c'est pour ça que c'est très difficile des fois de changer. Il y a des gens qui changent et qui perdent tous leurs amis. Et c'est pas grave, mais ça peut être très brutal quand on n'est pas prêt. Donc je comprends les gens qui veulent pas changer et qui s'accrochent à leur complexe. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas essayer de changer quelqu'un contre son gré, parce que ça peut être perçu comme très dangereux pour lui.
Et du coup, moi ça me fait penser en tant que pote, est-ce que j'ai déjà dit des trucs à des amis qui auraient pu avoir un impact négatif comme ça, je sais pas. Ouais, Florian.
Typiquement, on en a parlé dans l'épisode Friendship, que je vous recommande. Nous, on s'est laissé évoluer et on a énormément changé depuis 12 ans, même encore aujourd'hui, tu vois. Et enfin, récemment, j'ai fait encore des choix de vie. Je sais que tu acceptes tout et je sais pas, il y a un substrat qui fait qu'on accepte tout. Et surtout, t'as jamais essayé de me changer, donc du coup, en filigrane, t'as jamais essayé de m'inculquer un complexe, tu vois, parce qu'un quelqu'un qui te demande qui a un complexe, qui veut te maintenir dans un certain état, ou il veut provoquer quelque chose chez toi des trucs, en fait, des fois, quand on essaie d'inculquer des complexes aux autres, ou de les culpabiliser, c'est parce qu'on essaie de diminuer leur valeur plutôt que de remonter la nôtre.
Clairement, le mec pour ton nez, là, c'était ça. Lui, il devait être mal à l'aise par rapport à son physique.
Il était mal à l'aise. Alors oui, t'as tout à fait raison. Et le jour où j'ai remarqué qu'il était mal à l'aise, alors, par rapport à son physique, ou je ne sais pas quoi d'autre.
Bite. Pardon. Désolé.
On y viendra à la bite, mais il était mal à l'aise par rapport à sa bite. En tout cas, ce qu'il en faisait, c'est que moi au lycée, je couchais et c'était notoire. Gros baiser. Non, mais en plus, j'étais pas un queutard au lycée. J'ai eu deux copines au lycée, mais ça se passait hyper bien. Puis elles étaient dans nos groupes de potes, donc c'était assez. Tu vois, t'es au lycée, quoi. Donc, enfin, moi au lycée, il y a un moment dans la soirée, tu t'absentes et tout le monde sait que ce que t'es en train de faire parce qu'il y avait ta meuf.
Bah oui, mais tu vas vomir.
Sur elle,
ouais.
Le kink. Du coup, tout à l'heure, vous parliez que vous étiez libéré de complexe à 25 ans. De quel complexe vous êtes libéré et surtout comment ?
Moi, c'est le poids, mon plus gros complexe. Mais vraiment, pour le coup, ça, c'était vraiment un gros complexe. C'est-à-dire que j'y pensais tout le temps. Je voulais, dès que j'étais genre l'été à la plage en maillot de bain, j'étais pas à l'aise. Je mettais des t-shirts trop grands pour pas qu'on voit mon ventre. Ça concentrait vraiment toutes mes angoisses, tous mes complexes, c'était mon ventre. Et ça a été de faire un régime. Hein. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt ? Ça a changé ma vie, du coup. Mais c'est le jour où je me suis dit, bon, là, c'est plus possible, ça prend trop de place, quoi. Je veux pas. Mais voilà, c'est le jour où j'ai eu le recul nécessaire pour me dire, bon, en fait, c'est pas normal que j'y pense autant, c'est pas normal que ça m'empêche de faire des choses, que ça me rende même malheureux de temps en temps. J'étais pas en dépression, mais c'était vraiment quelque chose auquel je pensais beaucoup. Et du coup, à l'âge où j'ai eu le recul nécessaire de me dire, écoute, fais quelque chose, quoi, pour que ça change. Surtout que c'était quelque chose d'assez facile à changer. C'est pas comme... je sais pas, par exemple, tu parlais de ton nez. Si tu peux pas avoir d'action, enfin, à part... Enfin, tu peux faire une chirurgie.
J'y ai pensé, hein.
Ah, c'est vrai, tu y as pensé. Ouais. Mais là, perdre du poids, c'est quand même... Enfin, quand on est motivé et quand on n'a pas de problème génétique en particulier, c'est quand même relativement simple de perdre du poids. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça l'a été. Et du coup, voilà, en un an, c'était plié. Et voilà. Et pour moi, maintenant, c'est du passé. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a marqué à vie. Je fais quand même encore toujours attention à ce que je mange. Ça peut m'arriver des fois de temps en temps, genre ma femme elle hallucine un peu, genre des fois je peux être devant la glace et je suis pas à la limite de la maigreur aujourd'hui, mais enfin je suis fin en tout cas, et je peux genre faire un petit pli de peau et dire ah là là je suis gros et tout, et limite même ça pourrait passer pour de la moquerie, tu vois, genre oh là là je suis gros, genre oh là là regardez comment je suis fin, alors qu'en fait non, il y a des fois où je me trouve vraiment gros alors que non, je ne le suis plus. Mais voilà, je me sens mille fois mieux dans mon corps maintenant, et j'espère ne jamais reprendre du poids, et a priori c'est plutôt bien parti. Mais...
Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est notable, c'est que dans ton cas, ça a été une volonté de toi à toi de dire je veux perdre du poids.
Ouais.
Il n'y a pas eu d'élément déclencheur extérieur.
Non, je crois pas. Non, franchement, j'y réfléchis vraiment, mais j'ai jamais eu aucune remarque, je crois. Parce que quand j'ai dit aux gens que je voulais commencer un régime et tout, les gens me disaient mais enfin t'es pas gros en fait, et je sais pas, nous on s'est connus,
connu quand tu as commencé ça.
D'accord.
C'est connu à la période, ouais, où tu as commencé à courir 10 km par jour. Je me rappelle, t'as fait ça tous les jours pendant un an.
Ouais, tous les deux jours. T'embellis un petit peu. J'avais pas tout le temps, mais non, je courais beaucoup.
Faire, oui. Quoi. On t'appelait Dardacier quand même.
C'est vrai.
C'est véridique qu'on appelait Dardacier. Non mais parce que c'était incroyable, je t'ai connu à cette époque-là. Ce que je voulais souligner, c'est que c'est parce que c'est toi qui t'es fixé un objectif par rapport à ta référence interne, que c'est toi qui voulais perdre du poids, t'as eu la motivation nécessaire de mettre en œuvre un plan et de t'y tenir. Et ce qui fait la différence d'une motivation, c'est qu'elle est vraiment intrinsèque. C'est vraiment toi qui as un objectif, que tu t'es fixé par rapport à toi, qui choisis les moyens pour l'atteindre. Et la motivation, c'est ça. Et de connecter aussi à une valeur très forte. Je sais pas, toi, ce qui t'a vraiment motivé en tant que valeur.
Ouais, ma motivation, c'était de me dire, bah, en fait, ça fait con, hein, mais on vit qu'une fois, autant me sentir bien dans mon corps, quoi. Vu que c'est un truc qui était facilement accessible. Je me disais, bah, ça serait vraiment dommage de pas me donner les moyens d'y arriver. Toi, je sais pas, ça s'est passé comment, Lucas? Tu disais que tu l'es plus aujourd'hui, en tout cas.
Je ne suis plus. Ça s'est passé comment? En fait, c'est mon père qui m'a dit, qui m'a accompagné là-dedans. Mon père m'a dit, voilà, je vois que t'en souffres pas mal. Parce que mes parents sont divorcés, du coup, on se voyait pas souvent avec mon père. Et il voyait juste ce truc que, voilà, il voyait que j'en souffrais pas mal. Il me disait, écoute, on va faire ça ensemble si tu veux et tout, c'est cool, t'inquiète pas. Et il m'a pas mal accompagné là-dedans, c'était à l'âge de 15 ans à peu près.
D'accord.
Et je me reconnais vachement dans ce que tu dis, quand tu dis que tu te regardes dans la glace et que tu tâtes le gras, tu vois. Moi, j'ai encore ces réflexes, en fait. Même à la plage, j'ai du mal à me mettre torse nu, tu vois. Alors que, bon, aujourd'hui, j'ai plus aucune raison, entre guillemets, d'avoir honte de mon corps si je veux pas être gras, parce que je ne le suis plus aujourd'hui, mais j'ai toujours l'impression de l'être, et c'est vrai que ma femme me dit toujours, mais enfin t'es relou, quoi, enfin tu tâtes le gras, ça c'est chiant d'être obsédé comme ça par son corps alors que en fait il se passe rien, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est des choses qu'on, même si les complexes sont un peu partis, Tu le retiens un petit peu, tu vois. Enfin, la plage, à chaque fois, j'ai ce réflexe de me dire, ah non, en fait, non, pas trop, non, en ce moment, ok, bon, en fait, non, non, ça va. Donc,
ouais, toujours ce petit truc.
Ouais, ça laisse des traces, ouais, bien sûr.
Et ce que vous dites là, c'est la dysmorphophobie, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire de déformer la vision qu'on a de son corps par rapport à ce qu'il est réellement. Moi, j'ai ça avec la maigreur, j'ai été très maigre pendant très longtemps. Et donc ça peut être aussi dans l'autre sens, et aujourd'hui où j'ai fait de la muscu et tout ça, je suis toujours étonné qu'on me dise que je suis bien gaulé. Je suis bien gaulé, ok.
Vous pouvez pas
le voir.
C'est fou.
C'est un podcast. Pas au podcast, mais
imaginez.
Tu peux changer la photo de profil du podcast ou pas?
Ouais, je vais mettre mes abdos.
Direct.
J'en ai 14.
14?
Ouais, 14 doigts.
Dans le dos aussi. 14
doigts. Dans le dos. C'est pour ça que ça s'appelle les abdos.
Les abdos.
Des abdos et des abdos. Je suis toujours étonné qu'on me dise que je suis bien gaulé. Et au début, il y avait un espèce de rejet de non, en fait, c'est faux ce que tu dis, c'est faux, ouais. Ça correspond pas à l'image que j'en ai. Aujourd'hui, la différence, c'est que j'ai appris à accepter les compliments, parce que c'est vachement violent déjà de refuser un compliment. Et en plus, c'est aussi en acceptant la parole de quelqu'un d'autre à répétition que tu peux finir par croire une nouvelle vision de toi, quoi. C'est une version que je préfère de moi-même, donc autant l'apprendre, quoi.
Bah, carrément.
Ouais. Est-ce que vous avez des complexes que vous avez sur votre propre personne que d'autres gens adorent, Lucas, par exemple?
Oh, c'est une bonne question. Oui. Je suis eurotophobe.
T'aimes pas l'héros?
Eurotophobe?
T'aimes pas l'Europe?
Non, j'ai la peur de rougir. Et vraiment, j'ai une peur de rougir. En fait, depuis que je suis gamin, je rougis pour un oui ou pour un non. Et moi, ça me complexe de malade depuis que je suis gamin. Et en fait, les personnes autour de moi trouvent ça trop mignon. Genre, ah, il rougit, oh, c'est mignon, oh, c'est mignon, oh là là, sa petite gueule là.
Cette gueule, on lui donnerait
avec
bien
sa petite
des
gueule
tarte toute
ça,
rouge là. Quitte à rougir, autant se prendre des bonnes patates.
Exactement. Ouais, donc ça, ouais, je pense.
Et est-ce que toi, tu réagis comment par rapport aux gens qui disent que c'est mignon?
Je leur dis, hey, ferme bien ta gueule.
Ça, c'est chiant, non?
Super relou, ouais, super relou. Ouais.
Parce qu'il y a un truc un peu infantilisant, non?
De ouf. Ouais, vraiment, c'est très compliqué. Je dis, non, mais moi, je galère avec ça. Donc, pourquoi tu mets le doigt dessus? C'est très bizarre. Même si c'est positif, c'est chiant.
Et c'est marrant parce que du coup, rougir a été, parce que j'ai fait un petit sondage Instagram. Suivez d'ailleurs sur Instagram Mise à Mal Podcast.
Mise à Mal Podcast.
Merci.
Excellent.
Merci. Merci. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ils sont payés très cher. et il y a des gens qui disaient rougir comme complexe. Et ce qui est marrant, c'est que j'en parlais avec une amie la dernière fois qui me disait, je rougis tout le temps maintenant et ça s'accélère de plus en plus. Mais parce qu'en fait, son corps a pris l'habitude de rougir, en fait, d'avoir peur de rougir. Elle se concentre tellement sur le fait de pas rougir qu'en fait sa référence c'est rougir. Et donc du coup son corps déclenche la réaction. Alors qu'elle a vraiment, elle sait même pas qu'elle est en train de faire le truc gênant, c'est que juste elle est en train d'y penser. Et donc ça, ce que je voulais dire, c'est qu'à force de se focaliser sur nos complexes et pas plutôt sur quelque chose qu'on veut à la place, le corps physiologiquement réagit à au complexe d'abord. Enfin, je sais pas si c'est.
Et bah, c'est exactement ça. L'orthophobie, c'est ça, ce que tu viens de décrire. Et du coup, il y a des thérapies justement qui aident à régler ça. Donc la TCC, comme on en parlait tout à l'heure, qui a déconstruire vraiment le cheminement mécanique de j'ai peur de rougir, donc en fait je me concentre sur mon rougissement, donc je deviens rouge, etc., etc.
Et toi, Armin, est-ce qu'il y a quelque chose que t'as complexe
adorable? Bah, après, bon, moi, mon référentiel en matière de relation est quand même limité, mais bon, ma femme, j'ai un petit complexe de nez, petit mais vraiment tout petit, c'est-à-dire que j'ai pu avoir un complexe de longueur de nez, et maintenant je l'ai accepté, et j'en suis même plutôt fier d'avoir ce trait de génétique arménien en moi.
T'es arménien?
Je suis arménien, putain, oui, d'origine arménienne. Et mais voilà, quand je le dis, ma femme dit, enfin elle trouve que j'ai un super bon nez, et voilà. Mais bon, après c'est ma femme, donc évidemment elle va pas me dire, ah, oh, il est moche ton nez.
Ben ouais, mais tu vois, c'est pas si elle te crache dessus. Mais c'est pas si évident ce que tu viens de dire. Tu dis, c'est ma femme, donc c'est normal. Bah, en fait, non. Moi, j'ai été avec des filles qui ont vachement insisté sur des traits de caractère qu'elles n'aimaient pas chez moi. Bah, ça te crée des complexes, quoi. Donc,
c'est clair que ton entourage, moi, je pense, si je me sens aussi bien maintenant, c'est parce que maintenant, ça fait plus de 10 ans, du coup, que je suis avec ma femme et avec ce meilleur ami extraordinaire, Florian,
c'est qui
à mes côtés.
Ah, c'est qui?
Et non, mais enfin voilà, j'ai la chance d'être entouré de personnes qui m'envoient que des bonnes ondes, on va dire. Et c'est clair que ça participe à mon bonheur et à mon bien-être et au lissage de mes complexes, on peut dire. Toi, tu as des choses qui te complexent, mais qui sont
mignonnes,
qui sont bien mignonnes.
Putain, je m'étais même pas posé la question à moi.
Ah bah, si je m'attendais à ça.
Ah non, mais vous m'avez trop surpris.
Arrêtez,
Moi, mes pecs, ouais. Mes pecs, bah, complètement.
Tes vergetures de pénis.
Depuis mon élargissement. Et tout stretché.
Cette ventouse.
Mais alors, le pénis, qui est une ventouse en vrai, hein.
Ce qui est une.
Le gland est une pompe, enfin, est une ventouse, est conçu en ventouse. Ah ouais, fun fact. Le gland, pourquoi il a cette forme-là? C'est
pourquoi
qu'il est, il est conçu, non, il est conçu dans cette forme pour aller aspirer le sperme de potentiellement de concurrents spermatiques. Donc, ta bite, elle est faite pour. C'est pas une blague, c'est vraiment vrai.
De concurrence, c'est-à-dire.
De concurrence spermatique.
D'accord.
On en rencontre pas tous les jours, mais il y en a, attention.
C'est vrai que j'ai jamais rencontré de concurrence spermatique.
Ah, ouais,
j'espère pas d'ailleurs les rencontrer un jour. La surprise. Hop là, concurrence spermatique.
Et donc,
Pardon.
Ouais.
Tu voulais parler de bites?
Ouais.
Ah, ok.
Tu veux parler de bites aussi?
Non.
Alors, vas-y. Comment je vais tout ruiner en parlant de bites?
Non, non, vraiment, j'ai pas de. Enfin, je peux parler de bite, hein, mais.
Non, non, vas-y, parle de ce que tu. D'autres choses.
De parle pas de bite.
Parle pas de bite si tu peux.
De quoi je peux
c'est
parler.
C'est ni oui ni bite.
J'avais de la pétanque en tête, mais je pense que c'est pas intéressant.
Ça parle de boules.
Ça dépend du nombre de boules.
C'est vrai.
Oh là là.
C'est pas mal. Vous, la bite, ça vous a déjà complexé, les gars, ou pas?
Ben alors non, mais tu voulais parler de bite, du coup.
Ouais. C'est le vrai, vraiment, qui est très chiant, le gars qui est invité sur ce podcast.
Moi, je veux parler de ma bite.
Ouais, vas-y. Okay,
vas-y. Non, vas-y, j'ai déjà parlé. C'est mon podcast, je fais ça toutes les semaines.
Est-ce qu'on peut parler tous de notre bite ce soir, comme
en
ça,
même temps?
Oui,
en
oui.
Même temps.
Allez, 3, 2, 1.
3 centimètres, pas intéressant, vraiment. Quoi?
Non mais, non mais je peux commencer parce que moi ça a été un complexe parce que j'ai un sexe de taille moyenne on va dire voilà et je pensais que du coup c'était pas suffisant et ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter le fait que c'était pas quelque chose qui rentrait
ça rentrait dans les...
La taille ne rentrait pas en compte dans le plaisir qu'on pouvait donner, enfin en tout cas à partir d'une certaine taille. Encore une fois, voilà, c'était pas du tout une pathologie. Je parle pas de micropénis ou autre. Mais encore aujourd'hui, ça reste quelque chose, voilà, pas hyper grave. Mais par exemple, j'ai beaucoup de mal à uriner dans les urinoirs publics, et je pense que ça vient en partie de ça. Et ça va de mieux en mieux, vraiment.
Quand tu veux dire quand il y a un mec à côté de toi ou pas ?
Alors. C'est-à-dire maintenant, je commence à pouvoir le faire. C'est-à-dire que je suis passé par un moment où, même s'il n'y a personne à 10 km à la ronde, rien que le fait de faire ça dans un urinoir debout, c'était impossible. Mais genre, je pouvais rester 10 minutes. J'ai un souvenir avec Florian. Ah ouais, bon, après, c'était en festival, il y avait du monde et tout. Donc là, c'était vraiment un peu plus
allongé,
extrême.
J'ai pissé allongé.
Mais même pas. Non, mais à partir
du moment. Non, mais
à partir du moment où s'il n'y a pas de cloison,
ah oui, ouais.
Je ne pouvais pas du tout.
D'accord.
Maintenant, ça commence à aller mieux avec l'âge. Ça va beaucoup
c'est
mieux.
C'est l'incontinence, en fait. C'est juste tout ça. Avec l'incontinence, je pisse.
Je pas dans les urinoirs, du
voilà,
coup,
mais je le
dans
fais
ma
dehors,
couche.
Quoi.
Dans une couche.
Non, non, mais et clairement, en fait, ça vient de là. C'est que j'avais un truc un peu en tâche de fond. J'ai pas un gros sexe. Et du coup, ça m'a complexé. Mmh. Ça a pu me complexer par le passé. Voilà.
Et question, le complexe, il vient d'une comparaison.
Et, bah oui, bien sûr.
Et du coup, ça vient d'où?
Ben non, mais clairement, le porno, ça a été un motif de comparaison. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai découvert le porno assez tard. Mais malgré tout, ça a eu un impact là-dessus. Et clairement, ouais, j'ai pas pu m'empêcher de me comparer et du coup de me rabaisser et de me convaincre que j'avais un petit sexe, alors que concrètement, c'est pas le cas.
Et c'est marrant parce que le complexe vient souvent d'une comparaison. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question par rapport à quoi ? C'est que genre, j'ai un gros nez, par rapport à quoi ? J'ai un petit sexe, par rapport à quoi ? Je suis colérique, par rapport à quoi ? Et de se demander d'où vient la référence, d'où vient la norme ? Et après, une fois que tu as identifié ça, mais du coup, tu veux quoi ? Quel est l'autre modèle qui te ferait du bien ? Si tu peux pas changer physiquement, par exemple, la taille d'un nez ou d'un sexe, mais demande-toi qu'est-ce que tu voudrais avoir comme pensée quand tu vois ton sexe ou ton nez qui te ferait du bien à la place. C'est... Voilà,
c'est ouais, non, mais c'est
les gens qui ont confiance
ouais.
en eux, c'est des gens, et je pense à Navo, Bruno Muschio, qui est donc le binôme de Can Kojandi, des auteurs entre autres de Bref.
Qui est mon frère.
Félicitations, tu me le présentes. Non, mais vraiment, moi, je suis très admiratif de ce type, et j'écoute énormément de podcasts où il est dedans parce qu'il a une confiance, lui, qui est innée, qui dit qu'il a hérité de sa mère, comme quoi l'éducation c'est vraiment important. Et en fait, ce qui est fou dans la confiance qu'il a, c'est que c'est pas un ego démesuré, c'est juste qu'il est en référence à ce que lui il aime et à ce que lui il veut accomplir. Et donc, du coup, c'est pas qu'il est égotique ou qu'il est complexé, c'est juste qu'il est en référence interne, c'est tout. Et la confiance, c'est que ça, quoi. Et toi, la bonne grosse tub, du coup?
Bah écoute, ma tub, moi, elle impressionne, hein, je veux dire. Non, c'est totalement faux. Alors, j'ai eu le même complexe que toi à l'époque. D'ailleurs, faire pipi à côté de personne, c'est impossible.
Encore
aujourd'hui. Je sais pas si c'est lié à la tub ou quoi, mais c'est juste que c'est très gênant, quoi. J'arrive pas du tout. Mais pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais une petite tub. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, ça vient d'où? En fait, c'est... quand on comparait nos tubs avec mes cousins, c'est vrai que quand t'es un peu timide et que t'as pas envie de montrer ta tub, ta tub a tendance à se cacher un peu, quoi. C'est là genre, ah non, elle me montre pas, qu'est-ce que tu fais? Du coup, on dit, ah, t'as une petite tub, en fait. Et toi, t'es là, tu dis, je crois, enfin, ok, d'accord, j'ai peut-être une petite tub. Mais en fait, quand j'ai grandi, je me suis dit, mais pas du tout, en fait. Pas du tout, du tout. Et c'est, comme tu le disais, en se comparant, qu'on arrive à ces conneries-là. Ça peut, enfin moi ça m'a pas trop miné pendant mon enfance, mais ça peut détruire des gens, j'imagine.
Non, et moi, ce que j'ai appris aussi un peu plus tard et qui m'a, enfin un peu plus tard, je sais pas, à l'adolescence et qui m'a beaucoup fait de bien, c'est qu'en fait il y a plusieurs types de, enfin en gros c'est le rapport de taille entre quand ton sexe est pas en érection et en érection. Et donc du coup il y avait deux types de personnes. Il y avait les showers, donc ceux qui se montrent, donc quand ils sont pas en érection ils ont déjà un sexe de bonne taille, mais qui changent pas tellement de taille en fait quand ils sont en érection. Mmh. Et puis les growers, donc ceux qui grossissent, qui grandissent, et qui ont du coup, quand ils sont pas en érection, vraiment un petit sexe, mais qui va du coup énormément grandir quand ils sont en érection. Voilà. Et moi, faisant partie de cette deuxième catégorie, je pense que c'est un peu le... Il y a un syndrome, dans le syndrome du vestiaire ou un truc comme ça, il n'y a pas un truc comme ça, enfin de pas vouloir montrer sa tub. Et moi, ça vient clairement de là, quoi. Ouais. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi.
Qui se mord la...
C'est la boucle qui est bouclée, finalement.
Et moi sur la teub, moi j'ai jamais eu de complexe dessus, j'en suis pas fier, je suis pas phallocentré, j'adore ma bite.
J'adore ma bite.
Non mais en vrai j'en suis pas fier, mais je l'aime beaucoup. Il y a vraiment un truc, j'ai vraiment un sentiment d'amour et genre je suis très content de... Et je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez, genre... Parce que toutes les femmes avec qui j'ai été ont toujours été hyper cool avec ça, et donc du coup j'ai jamais eu de commentaires sur ma bite et j'ai toujours vu que ça se passait bien, et quand je demandais si ça se passait bien, ça se passait bien. Et je l'ai jamais corrélé avec la taille de mon sexe, donc du coup je me dis bah cool quoi. Et encore aujourd'hui je sais pas comment on la trouve, et c'est pas une question que j'ai envie de poser parce que ça m'intéresse pas du tout.
Ouais. Tant mieux. Je me demande si ça a pas aussi un rapport avec le fait que t'as fait l'amour assez tôt avant d'avoir potentiellement ce genre de complexe. Je sais que moi j'ai fait l'amour assez tard et du coup j'ai eu le temps de me poser la question longtemps, genre est-ce que du coup je vais pouvoir donner du plaisir à une fille parce que j'ai l'impression d'avoir un sexe plus petit. Et cette question-là, je me la suis posée longtemps avant de pouvoir faire l'amour. Et du coup, même si je me suis rendu compte que c'était pas le cas, j'y avais quand même eu cette idée-là dans ma tête pendant suffisamment longtemps pour que ça reste, quoi.
Mais je sais pas s'il y a des choses que vous vouliez ajouter sur les complexes.
Moi, j'ai fait le tour.
J'en avais un, mais si je l'ai pas dit, c'était par rapport au fait d'avoir des objectifs professionnels relativement bas par rapport aux attentes de la société et tout ça. On en a parlé avant, mais pas après. Mais bon.
Et ben alors sur ça, merci, parfaite transition, mais pas pour cet épisode. Moi, j'ai aussi des complexes par rapport à l'argent, et j'aimerais faire deux épisodes, un sur le boulot et un sur l'argent. Ouais, donc, du coup, voilà, c'était pas prévu.
C'est deux trucs que j'avais envie de aussi.
Ouais, et on en parlera parce qu'en fait, ça c'est des complexes qui sont hyper importants, mais j'aimerais bien les isoler parce qu'il y a vraiment des attentes très masculines par rapport à l'argent et par rapport au taf. Ouais. Donc du coup, on en parlera dans d'autres épisodes. Je fais un peu de frustration.
Oh bah oui, c'est comme ça.
C'est trop bien.
Petit edging là.
Oh les jingles.
Oh là 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 là. Ben en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un mot peut-être avant de se quitter pour qualifier votre rapport? Armène panique. Un mot pour qualifier la théorie des cordes. Non mais
bite.
Volatilité.
Non mais un mot pour qualifier votre rapport au complexe, même si on a ouvert l'épisode sur le fait que vous étiez peut-être plus apaisé. Mm-hmm. Est-ce que vous auriez un mot pour qualifier aujourd'hui votre rapport à vos complexes passés et existants encore?
L'acceptation, vraiment, c'est, pour moi c'est hyper important. Vraiment, c'est les complexes, de toute manière, ça laisse des traces, comme tu le disais très bien, Armène. Donc il faut l'accepter, vivre avec, et on est bien avec ça.
Et tu fais bien dire acceptation et pas tout régler. En fait, c'est pas obligé de tout régler de la même manière, c'est pas obligé de tout déconstruire.
Bien sûr.
Accepter, c'est déjà énorme.
Exactement.
Moi, je dirais bienveillance. Voilà. Un peu pareil. C'était juste pour trouver un synonyme. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Lucas. Et voilà, je les accepter, en avoir conscience et se rendre compte qu'on a la chance de vivre avec.
Et moi, j'ai pas un mot. Il doit exister un mot pour ça, mais j'aimerais dire complexe et force. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est que vraiment, ce que j'ai observé actuellement, c'est que mes complexes m'avaient vachement construit. En tout cas, le chemin que j'ai fait pour les accepter ou les transformer en autre chose, faisait que j'étais bien plus solide aujourd'hui sur la valeur que je m'accorde, particulièrement sur les complexes que j'ai pu avoir. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment archi cool de discuter avec vous.
Ben, merci à vous deux.
Bah non, mais du coup, moi je te remercie pour ton invitation. Je me sens con parce que tu
remercies. C'est
pas Florian, toi,
non, mais c'est pas grave.
Frère, je te dis, frère, je m'en bats les couilles.
Tu sais quoi, je t'ignore. Depuis tout à l'heure, je t'ignore. Ta soirée, j'ai bien
parce qu'il ne parle pas depuis tout à l'heure. C'est bizarre, mais pourquoi?
Il est bizarre.
Non, mais en fait, l'œil gauche, je peux pas le
faire. Il marche plus.
Non, mais.
Chers applaudisseurs, je vous embrasse et je vous applaudis avec le cœur. Putain, j'ai raté mon bisou. Je salive.
vous l'attendiez, eh bien le voici, le bêtisier de l'épisode. Et si vous voulez soutenir Mise à Mal, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, à vous abonner sur votre plateforme de podcast si c'est pas Apple, et à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Merci beaucoup, c'est grâce à ça que le podcast peut se développer.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Déjà, demander l'autorisation, ça a l'air con, mais moi, à chaque fois que je donne un conseil ou que je dis que je vais juger, bah, je viens de le faire avec toi, Armel, je dis je vais te juger, mais même positivement.
C'est pas une question, ça, mais.
Non, mais quand je dis à quelqu'un que je vais te juger,
je vais te juger, point d'interrogation. Je mets le point, mais je vais quand même le faire.
Ah, la double ponctuation, je vais te juger, point, point d'interrogation. C'est vraiment passif-agressif.
Mais positivement.
C'est vraiment vrai, c'est que la bite, elle est faite pour donc évidemment pour aller disséminer.
Mais pour Ken. Pardon.
Allez, quatrième verre, les gros beaufs. Non mais c'est très fier de sa blague.
C'était une super vanne, vraiment. Ouais, vraiment, je suis. Je suis très bon public aussi.
Mais il faut se contenter de ce genre de blague.
Non, se contenter.
Il faut se contenter d'Armen. Oh, moi, je trouve tes blagues efficaces, Armen. Hein. Non, et donc c'est fait pour aller mettre dans le fond, quoi, ce qu'on veut mettre. Mais le sperme, je parle du sperme. Mais c'est aussi fait cette forme-là en
parapluie inversé.
En parapluie. Je vais pas trouver comment on appelle ça. Mais en gland, quoi.
Forme de gland, quoi.
En gland.
Forme de bon vieux gland, là.
En gland.
Hein, alors.
Bien évasé.
Et oui, le gland. Il est en forme de.
Tout à fait.
De gland. Et c'est fait pour aller aspirer
le sperme des autres.
Le sperme des autres, c'est vraiment vrai.
Non, d'accord.
Voilà.
Dans un récipient qui.
Oui,
l'urètre.
Bah, qui est... Pareil, y en a pas d'autres, moi, hein. Je stocke le sperme de mes concurrents.
C'est vrai. Une banque de sperme.
C'est comme un hamster. T'as une bite avec des bajoux.
Si, non, mais certainement. Et au début, tu prenais ça un peu comme une blague ou tu le prenais pas au sérieux ou...
Au tout début, alors quand j'ai commencé à muscler et à rencontrer des femmes à l'époque où je le faisais, il y a eu une meuf qui m'avait dit, qui était en histoire de l'art, c'est important, et qui m'avait dit tu ressembles à des tableaux de je sais plus qui, où c'est que des corps d'hommes nus très esthétiques. Et vraiment, je me suis dit quelle bâtarde, elle se fout de ma gueule. Alors que vraiment, pour elle, c'était sincère. Je lui avais dit, mais ça se fait pas. C'est marrant de vous faire un compliment. Je disais,
hey, ça se fait pas dire que je suis extrêmement beau. C'est horrible.
Hey, t'es trop
méchante,
honte,
en fait.
T'as pas honte.
Je t'ai donné de l'amour avec ma pompe à sperme, mais toi, t'es.
Toi, tu me traites de David, mais ça va pas.
T'es une malade.